I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coup de cœur littéraire.
J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas.
Rencontre.
Déjà, le titre est une absurdité, c'est une erreur totale.
Auteur, éditeur.
C'est quoi la parole sur un texte? C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas?
Grain de Fleur Café, un podcast de Grande Contrôle avec la librairie Caribde.
Bonjour, bienvenue au Grain de Fleur Café. Cette semaine, la librairie Caribde est à nouveau en joie de vous présenter trois livres qu'elle aime. Donc ce sera aujourd'hui Sylvain Coher, Vaincre à Rome, paru chez Actes Sud en août 2019. On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, de Laure Limongie, paru chez Grasset en août 2019. Et puis Les 11 de Pierre Michon, paru chez Verdier en 2009. Samedi 10 septembre 1960, nous sommes à Rome, près du Capitole de Michel-Ange et des ruines du Forum romain. C'est l'avant-dernier jour des Jeux Olympiques, le dernier jour du calendrier éthiopien. On se prépare au marathon, l'ultime épreuve de ces Jeux. On fait des petits sauts presque sur place, on respire à fond et on s'appelle au départ. Dans quelques secondes, il sera 17h30, l'heure attendue par les 69 concurrents de ces 17e Olympiades. Il fait 23 degrés et la nuit tombera vite car le changement d'heure n'existe pas encore. Ceci n'a rien d'un marathon, c'est la guerre. Sous nos yeux, le dossard numéro 11 est celui d'un jeune caporal éthiopien de la garde royale du Négus. Il se nomme Abebe Bikila et il a 28 ans. Il est venu à Rome pour reprendre un combat déjà gagné 20 ans plus tôt. Et voici dans nos mains le récit du marathon d'Abebe. 42 km et 195 mètres linéaires pour une durée idéale de 2h15 minutes et 16 secondes. Du temps et de l'endurance, c'est le parti pris de ce livre. Lire comme on court, d'une seule traite, en ménageant son souffle. Un bon marathon se préparant avec rigueur, on aura pris soin de s'entraîner auparavant avec des revues ou des livres choisis au hasard. Ni trop vite, ni trop lentement. On se méfiera des pauses et des arrêts qui, selon les entraîneurs, ne servent à rien sinon à décourager les coureurs. Mais chacun sait qu'un marathon se gagne lorsqu'il s'achève et ne se perd qu'à l'abandon. On pourra relire ce livre autant de fois qu'on le souhaite pour un jour peut-être gagner quelques secondes sur le temps d'Abebe. Cette page que l'on va tourner maintenant, on lui donnera l'impulsion d'un coup de revolver. Dans la foule des grands jours, les regards sont braqués sur l'homme starter au costume de lin gris. Le Borsalino remonté d'un doigt sur le front pour regarder l'hypothétique tracé d'une amorce dans le ciel. Prêt ? Alors l'avertissement, le mode d'emploi, si on veut, qui est proposé par Sylvain Coher en tête d'ouvrage, hein, nous donne d'emblée les fils conducteurs d'un projet littéraire très singulier. En imagination, sous le crâne d'Abebe Bikila, le temps exact de cette course mythique, d'autant plus mythique qu'elle est longtemps après coup, que fut le marathon olympique de Rome en 1960. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de la biographie romancée d'un champion d'athlétisme du passé. On est très loin, par exemple, du projet joliment accompli par Jean Echenoz d'en courir hein, autour de la figure d'Émile Zatopek. Il s'agit bien de recréer le temps d'une course unique à bien des égards, le flux de conscience d'un coureur dans toute sa complexité et son chaos potentiel, mêlant l'immédiat et très concret, les aspérités des pavés, la trajectoire d'un virage, à l'arrière-plan historique ou géostratégique, la colonisation italienne en Afrique de l'Est, la guerre d'Éthiopie, à l'élan olympique, la stratégie de course, les doutes et les certitudes quant aux adversaires présents, et à la vie personnelle, le mariage tout récent, l'enfance de berger. Sylvain Coher nous avait déjà brillamment montré comment transformer la pratique extrême de la moto en, par exemple, banc-test pour la possibilité de l'amour. C'était Carénage en 2011. Ou bien la non-pratique de la voile auturière en alternative au désespoir migratoire. C'était Nord-Nord-Ouest en 2015. Avec ce Vaincre à Rome, publié en août 2019 chez Actes Sud, il transmute 2h15 de course à pied en un univers à part entière, complet et ramifié. Affolant, réjouissant, songeur, dans le choix de ses détails pierreux et de ses perspectives cavalières, Sylvain Coher peut convoquer aussi bien, en quelques mots, au détour d'un chemin romain nocturne éclairé au flambeau, l'Afrique italienne de Carlo Lucarelli, le mépris postcolonial, d'autant plus vivace qu'il se veut alors quelque peu dissimulé en 1960, les forums impériaux, Altier et Decati de la Rome éternelle, les faubourgs populaires des Ragazzi de Pasolini, le petit Généen champion, le coaching sportif des hauts plateaux, le combat hoplitique métaphorique ou le rêve obsessionnel à jouer, par exemple, d'Unani Moretti de Palombella Rossa. Sylvain Coher nous offre surtout et avant tout ici le temps d'une course légèrement halluciné et parfaitement maîtrisé, en une langue d'une beauté et d'une subtilité qui force l'admiration, un très grand moment de littérature. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais également le commencer par une très brève citation. Il faut savoir déambuler dans les territoires effrayants d'un mouvement léger. C'est à parcourir cet effroi souverain de l'enfance lorsque le sens s'y dérobe par trop, noyé qu'il est dans les faux-semblants, les folies familiales et les secrets dont il faut à tout prix préserver la façade, que Laure Limongie nous invite, avec ce roman qui est ancré dans sa Corse natale, mais qui pousse ses redoutables pseudopodes jusqu'à La Ciotat, jusqu'au Morvan, jusqu'à Paris ou jusqu'à Porto Rico. Publié en septembre 2019 chez Grasset, « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains » réfute avec grande adresse le piège autobiographique, se permet de jolis clins d'œil autour du pack de lecture en évoquant discrètement à l'occasion aussi bien Anomalie des zones profondes du cerveau que Soliste, voire Ensuite j'ai rêvé de papayes et de bananes, tous de la même autrice. Il faut se laisser guider dans l'enchevêtrement des flashbacks innocents ou rusés, de la de moins en moins petite Uma, ainsi prénommée du fait d'un rêve de sa mère, comme la petite fumée dont on doit aspirer le H en le prononçant, tellement difficile pour les bouches françaises. Et c'est ainsi qu'on pourra goûter le sel, le fiel et le miel de cette histoire familiale aux ramifications à la fois insensées et puissamment humaines. Écoutons, 10 ans, 20 ans plus tard, comme si la vie n'était faite que de commencement, je n'arrête pas de chercher à raconter cette histoire, sans trouver un angle adéquat. 1000 petits sauts variés dans la piscine d'enfance, et je continue à boire la tasse. Ça brûle toujours jusqu'au tréfond. Je me demande ce qui m'effraie à ce point. Pourquoi le chemin est si tortueux? Comme si raconter allait guérir quelque chose que je ne voulais pas guérir. Il faut peut-être le reconnaître, on chérit certaines souffrances. La petite plaie ouverte sans cesse, les ongles rongés jusqu'au sang, les courbatures soigneusement travaillées, les doigts qui appuient sur les touches du piano jusqu'à la douleur, le manque, l'amour mort. Peut-être un air sans astreinte est-il irrespirable pour certains. Alors il peut suffire du détour d'une photographie presque oubliée qui est repêchée parmi d'improbables objets abandonnés pour que l'illumination survienne et que les choses qui étaient jusqu'alors cachées apparaissent à la narratrice comme à la lectrice ou au lecteur. Alors, on songera peut-être à la magie qu'on connaît chez le Dreckmann de l'Ellipse du bois ou chez le Daniel Arras de On n'y voit rien ou du détail. C'est par la superposition patiente, volontaire ou involontaire, pernicieuse, malicieuse ou au contraire protectrice de plusieurs lois du silence que se tisse cette étoffe proprement extraordinaire dont sera enveloppée longtemps la vie du mât, avant qu'elle ne puisse enfin séparer l'éventuel bon grain de l'ivraie manifeste, révoquer les mensonges cuits et recuits, et accéder au non-dit nécessaire. Dansant avec grâce entre l'intime et l'universel, jouant du quotidien, du surmontable et du fatal, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains est un roman d'une impressionnante puissance, réticente, comme un retardement, et son souffle n'en est que plus explosif. C'était juste une grande histoire d'amour, dira un cousin à La Ciotat un jour d'enterrement. Voilà, le troisième roman dont la librairie Caribe voulait vous parler aujourd'hui est plus ancien. C'est un roman de 2009 publié chez Verdier, qui fut couronné cette même année par le Grand Prix du roman de l'Académie française, ce qui prouve que certaines années, l'Académie montre un goût très sûr. Les 11, c'est le 13e roman de Pierre Michon, et sans doute celui qui m'a le plus comblé et marqué. Davantage encore, et c'est pas peu dire, que Vie minuscule en 84, Maître des serviteurs en 90, ou Le roi du bois en 92. Cette féerie, qui parvient en 130 pages, alors de la densité coutumière à Michon, a orchestré le choc éclatant, enfin au grand jour, celui de la Révolution française, de deux mondes disjoints, rapiécés, claudiquants, que furent et que sont celui des nantis, les noblesses entrées en décadence depuis longtemps déjà, les bourgeois dynastiques ou tout juste extraits de la tourbe, et celui des limousins, dont l'origine géographique est plébéienne, on dira bientôt prolétaire, devient l'emblème noireau et boueux de tous ces sans-culottes et va-nu-pieds qui tiennent provisoirement, le temps du récit et un tout petit peu plus longtemps peut-être, le haut du pavé, dans les sections parisiennes, entourant de leur jalouse pression une convention flottante et un comité de salut public qui fait feu de tout bois, lancé à pleine vitesse entre sans doute trop de fours et trop de moulins. Léon, c'est un tableau, une représentation picturale des membres du comité de salut public, celui qu'on appelle généralement le Grand Comité de l'an 2, de septembre 93 à juillet 94, par opposition notamment au premier comité, celui d'avril 1793, dominé par Danton et ses amis. La lectrice ou le lecteur, malgré tous les détails somptueux et accablants fournis par l'auteur, le cherchera en vain, ce tableau, au bout de la Grande Galerie du Louvre, où il est censé trôner. Car ici, plus que jamais, la fiction règne en souveraine et modèle la réalité comme elle en a la nécessité. Léon XI, c'est aussi un peintre, celui surgi de son Orléanais fangeux, de la gloire batelière de son aïeul, de la velléité littéraire et salonarde de son père, des jupes protectrices et enamourées de sa mère et de sa grand-mère, pour conquérir quelques commandes prestigieuses dans les dernières années de l'Ancien Régime, dans l'ombre portée de l'esthétique triomphante et rusée du grand Tiepolo. Les dictionnaires de l'art seront toutefois muets sur son compte, car Pierre Michon, fin connaisseur que l'on sait, des personnalités de peintres et d'artistes, avait besoin de celui-ci précisément pour son projet et a su en effectuer la création purement ad hoc en forme d'emblème. Léon, c'est enfin une commande, et surtout l'histoire de cette commande, passée dans les ombres flottantes d'une salle de couvent réquisitionnée au cœur du Marais parisien, près de l'hôtel de ville. Thriller politique inattendu et pourtant si logique, glissé comme en fraude au sein de l'histoire et de l'art. Alors on retrouve avec bonheur dans ce roman les obsessions minutieusement agencées de Pierre Michon, le rôle toujours trouble de l'art et du peintre au premier chef, écartelé à loisir entre son devenir artiste et son être artisan, proie du siècle mesquin, qui agite néanmoins de lointaines étoiles au fond de ses yeux. On retrouve les barrières entre classes, talents et destins en manque de coups de pouce, qui toujours empêchent des vies minuscules de s'épanouir vraiment et toujours condamnant à se satisfaire d'une royauté sur les bois. Ironie constante de ce qu'il faut se résigner à appeler le sort, faute de mieux et faute de pouvoir se dégager de la velléité. Sociologie expérimentale et combattante, aussi discrète que puissante, qui pourrait illustrer par exemple avec très grande pertinence l'excellent De la justification de Luc Boltanski et Laurent Thévenot. Et enfin la phrase de Michon peut-être, surtout, ramifiée, alluviale, qui englobe et se nie d'un même mouvement, qui inscrit une poésie terrible et souvent paradoxale dans le moindre interstice disponible. Le travail de Pierre Michon, dans Les Onze, me semble comme magnifié par l'arrière-plan politique quasiment mythique qu'il distille au fil des pages. On a un crescendo savamment orchestré, en vue, mais oui, des révélations finales. Je t'ai bien dit que c'était un thriller. Maximilien Robespierre et Louis Saint-Just, bien entendu, mais aussi Lazare Carnot et Georges Couthon, Bertrand Barrère et Jacques Billon-Varenne, Jean-Marie Collot d'Herbois et André-Jean-Bon Saint-André, et même, allez, Robert Lindet, Pierre-Louis Prieur de la Marne et Claude-Antoine Prieur de la Côte d'Or. Les noms des Onze sont inscrits au fer et au sang dans notre mémoire historique, nourris par les années de collège et de lycée républicain, par les boulevards, les places, les lieux publics qui leur sont ou leur furent consacrés, par la minutie des grands textes, entre autres Albert Soboul, François Furet et Jules Michelet. Jules Michelet qui est l'un des secrets dei ex machina utilisés par l'auteur, et par la ferveur toujours renouvelée et toujours aussi significative des controverses souvent violentes qui peuvent entourer leurs actions et leurs bilans. Les Onze écarnent à bien des égards, et y compris pour leurs détracteurs acharnés, ceux qui nous tient lieu d'identité républicaine, sociale et politique, en France bien entendu, mais aussi dans une large partie du monde. Les sacraliser en un immense tableau fictif, pour mieux les dérouler sous nos yeux, en vie minuscule, engoncés dans leurs contradictions, qui sont avant tout les nôtres, écartelés qu'ils sont entre grandeur et mesquinerie, entre fins et moyens, entre dureté et générosité, entre individuel et collectif, entre justice et efficacité, entre désir brut et grandeur sophistiquée, c'est nous adresser un brutal crochet au foie, au centre de nos interrogations intimes les plus humaines et les plus vastes. Et le faire, comme Pierre Michon y parvient sans aucun doute, avec l'œil discrètement rieur, le sourire légèrement esquissé et le geste qui ne tremble pas, c'est nous forcer à regarder en face les choix que nous voudrions tant, si souvent, absolument éviter d'avoir à faire. Et c'est ainsi que la littérature produit des chefs-d'œuvre. J'espère que ces quelques mots à propos de trois grands livres vous donneront évidemment envie de les lire. Le Grondefleur Café est très content de vous avoir eu et d'avoir eu votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
C'était Grondefleur Café, un épisode produit par Grand Contrôle avec la librairie Caribde.
C'était très bien, c'était très bien.
À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.